Bienvenue dans Questions politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h. En début de semaine, il était au Liban puis en Irak avec le président de la République. Il a eu le temps de passer par Paris pour un conseil de défense restreint et le conseil des ministres avant de se rendre en Slovénie. Beaucoup de questions à lui poser sur la place et le rôle de la France dans le monde, sur le nouveau jeu des puissances. Il connaît mieux que personne les enjeux diplomatiques et géopolitiques. Il avait engagé la France sur plusieurs terrains de guerre, notamment en Afrique, contre Daesh et les djihadistes. Il nous dira où en est cette guerre, justement, que les soldats français mènent au Sahel. On apprenait aujourd'hui que deux militaires de la force française Barkhane avaient été tués, un autre grièvement blessé dans le nord du Mali. Question politique est en direct avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour intervenir l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci de vous arrêter dans notre studio entre deux voyages, entre deux avions, pour vous interroger l'équipe de questions politiques. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali. Bonjour à tous.
Et Karine Bécart de France Inter, qu'on a le bonheur de retrouver. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Monsieur le Ministre. Nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Partons d'abord de l'actualité. Je le disais en commençant, deux militaires de la force française Barkhane ont été tués, un autre grièvement blessé samedi matin par une bombe artisanale dans le nord du Mali. Quel est l'avenir aujourd'hui de la force Barkhane sur place? Est-ce qu'on peut imaginer, comme l'a dit le président de la République Emmanuel Macron, que la victoire est possible contre les djihadistes? On a le sentiment que ça n'en finit pas, qu'on n'en voit pas le bout et que le sens même de la présence de Barkhane au Sahel pose question.
D'abord, à la suite du président de la République, je voudrais rendre hommage à ces deux soldats qui sont tombés, saluer leur héroïsme, saluer aussi leur famille, leurs compagnons d'armes de Tarbes, du 1er régiment de Hussards, avec d'autant plus d'émotion que j'ai été pendant plusieurs années ministre de la Défense.
Bien sûr.
Leur combat doit continuer. Il n'est pas question de lever la garde.
Pas question.
Et nous sommes dans une phase au Mali où il y a eu, après ce qu'on a appelé le sommet de Pau, en début janvier de cette année, qui a réuni autour du président Macron les chefs d'État de la région et en plus le président du Conseil européen. Nous avons dessiné à ce moment-là une stratégie de renforcement de l'action au Mali. Elle commence à donner ses effets significatifs.
Véritablement, on a véritablement. Le sentiment que la zone est totalement déstabilisée,
Jean-Yves Le Drian. C'est le contraire.
C'est le contraire.
C'est
alors expliquez-nous.
Il y a eu deux morts et c'est tout à fait dommageable, mais il y a eu aussi, au cours de ce semestre, des reconquêtes de territoire, en particulier dans la région que l'on appelle la région des trois frontières, c'est-à-dire dans la zone entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Et le Mali.
Des territoires sont revenus, si j'ose dire, à la vie civile. Des villageois sont retournés chez eux. La présence de l'État revient. C'est un long combat. J'ai toujours dit que c'était un long combat, dans mes fonctions antérieures comme maintenant. C'est un combat difficile. C'est un combat difficile, d'autant plus que nous sommes dans une région grande comme l'Europe et que nous avons affaire à...
Quelques milliers de soldats pour une région grande comme l'Europe.
Oui, donc nous avons affaire à des groupes djihadistes extrêmement volatiles, extrêmement agiles, mais nous progressons et nous sommes là pour défendre notre sécurité.
Nathalie Saint-Cric.
Qui sont nos alliés? Parce qu'on a un peu l'impression que dans le monde entier, la France se bat quelquefois un peu seule.
Non.
Pour de justes causes. Mais sur qui on peut s'appuyer véritablement sur place?
Ce n'est plus le cas. Je crois qu'au début de l'opération Serval, j'étais à ce moment-là ministre de la Défense, nous étions sans doute un peu seuls. Je rappelle d'ailleurs que l'opération Serval, comme d'ailleurs l'opération Barkhane, comme d'ailleurs l'engagement de Pau, se fait à la demande des pays concernés. Mais au fur et à mesure, l'ensemble des pays européens a pris conscience que c'était leur propre sécurité qui était en jeu. Et que si la stabilisation n'aboutissait pas dans cette région du Sahel, alors il y aurait des difficultés, y compris en Europe. C'est-à-dire, ce sur quoi nous nous battons, c'est pour préserver notre sécurité et préserver en même temps la sécurité des pays concernés. Et les engagements européens se poursuivent, se renforcent même. Il y a 13 pays européens aujourd'hui dans l'action autour de Barkhane. Il y a par ailleurs une mission de formation européenne qui s'appelle UTM Mali, qui permet de former l'armée, les armées, d'ailleurs pas uniquement l'armée malienne. Et puis vous avez une mission militaire des Nations Unies. Donc il y a du monde.
Avec 15 000 hommes.
Et en plus, ce qui m'a paru le plus intéressant depuis le sommet de Pau, c'est que nous avons pu mettre en place une coalition internationale pour le Sahel. C'est-à-dire d'autres pays, en plus de l'Union européenne, se sont alliés pour soutenir l'action qui est engagée au Sahel. Ça devient une action internationale.
Et
c'est une nouvelle donne.
Puis Karine Bécard.
Vous dites que ça devient une action internationale, mais vous vous appuyez sur quelle force sur les territoires pour l'amener? On voit bien qu'il y a une série d'États qui sont des États faillis, qui n'arrivent pas à tenir bien et à vous aider. Donc, est-ce que c'est pas une action vaine de continuer dans cette région?
Non, parce que parallèlement, nous formons les armées des 5 pays du Sahel pour qu'ils assurent eux-mêmes leur propre sécurité à l'avenir. Ils ont constitué ce qu'on appelle la force conjointe du G5 Sahel, où il y a près de 5000 hommes, des hommes aguerris qui mènent combat avec nous.
Mais
en ce moment.
Des armées,
en ce moment même.
Est-ce qu'on peut former des armées? Qu'est-ce qu'on fait
non,
par rapport à l'État?
On ne peut pas uniquement se contenter de ça.
Il y a les processus politiques, les déstabilisations. Regardons le Mali, par exemple, avec la destitution du président Ibeka qui vient de se rendre à Abu Dhabi. On vient de l'apprendre. En l'occurrence, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir.
Je vais y revenir sur la situation.
Comment continuer à travailler avec eux?
Et pour répondre à votre question.
Mais c'est aussi la question de Françoise.
C'est deux choses différentes. Et il y a eu à Pau des engagements qui ont été pris, à la fois de la part de Barkhane, de la France, pour lutter avec des Européens contre le terrorisme de manière militaire, et puis des engagements qui ont été pris pour renforcer la force conjointe du G5 Sahel. C'est pas rien, hein, 5 pays qui mettent leurs armées ensemble, nous on l'a jamais fait, hein. Et des pays récents, donc des pays neufs, des pays qui ont peu d'histoire, avec des formations militaires parfois un peu faibles, qu'il nous faut former. Ça c'est en train de se faire. Et quand il y a des combats, ils se font aussi aujourd'hui avec eux. Et puis, parallèlement, des mesures importantes ont été prises pour renforcer la présence de l'État. Vous avez raison de le souligner, parce que les terroristes raffolent de l'inexistence de l'État. C'est leur moyen de passer.
Le Mali, Jean-Yves Le Drian,
qui est un contre-exemple
à ce que vous dites.
Pas du tout. Et je vais vous le dire. Et aussi, le fait qu'il y ait un soutien de développement considérable, parce qu'il faut aussi gagner la paix et permettre aux habitants de se rendre compte que, au-delà du combat contre les djihadistes, il y a une alternative potentielle de vie.
D'accord, ça c'est le projet global.
Et ça, ça marche.
Parlons des faits.
Ça fonctionne.
Donc le coup d'État, le Mali, qui a eu au mois de
c'est une affaire interne au Mali.
Oui, mais est-ce que ça complique la tâche de l'opération Barkhane?
Ça serait mieux qu'il y ait une stabilisation, mais ça n'a aucunement empêcher la poursuite des actions militaires, y compris des forces maliennes, dans le nord du Mali en particulier, mais aussi dans la région des Trois Frontières, où des opérations en ce moment même continuent. Et ce qui était très significatif, c'est que la junte qui a accompli le coup d'État a commencé par ses premiers déclaratifs en indiquant leur volonté de poursuivre à la fois les opérations avec Barkhane, la force.
Vous les reconnaissez comme l'autorité légitime au Mali aujourd'hui?
Non, pas aujourd'hui, non.
Non,
non. Nous souhaitons qu'il.
Vous soutenez toujours Ibeka, l'ancien président destitué?
Ibeka a démissionné.
Oui,
on ne peut pas soutenir quelqu'un qui a démissionné.
De notre côté, qui soutenez-vous?
Ibeka, on ne le soutenait pas. Ibeka, il a été élu et soutenu par les Maliens.
Par la France?
Non, la France ne vote pas au Mali.
Non, bon, mais elle influence.
À ma connaissance.
Elle agit et elle y a des hommes armés.
Non, pas du tout, parce que au mois de juillet 2013, lorsqu'il y a eu la première élection du président Ibeka, il y avait d'autres candidats. Et en 2018, lorsque le président Ibeka s'est fait réélire, il y avait d'autres candidats.
Mais la situation paraît engluée aujourd'hui.
La difficulté, c'est que le président Ibeka n'a pas été au rendez-vous des aspirations du peuple et qu'il y avait une crise de confiance réelle dans ce pays à la suite d'élections. Des mouvements populaires, etc. Et donc cette crise de confiance a abouti à ce coup d'État. Ceux qui ont engagé ce coup d'État ont annoncé leur volonté de poursuivre les efforts militaires, de respecter les accords de Pau. Mais maintenant, il est nécessaire et souhaitable qu'ils assurent la transition civile et la transition tout court pour permettre de nouvelles élections.
C'est
ce à quoi nous les incitons, mais pas uniquement nous, parce que ceux qui sont les plus actifs dans cette affaire, ce sont les chefs d'État de la région, les chefs d'État de l'ensemble de l'Afrique occidentale qui sont allés en médiation, qui se réunissent d'ailleurs demain pour poursuivre leurs actions permettant une transition civile au Mali, ce qui est indispensable.
Plusieurs observateurs parlent d'un sentiment anti-français
qui est au Mali, en considérant en gros qu'on n'est pas les bienvenus et se demandant bien ce qu'on est allé faire là-bas. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore ou il y a toujours ce terreau anti-français qui prospère ?
Jean-Yves Le Drian.
Il y a eu des moments où il y a eu des propos anti-français qui étaient tenus sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il y a eu les manifestations, elles n'étaient pas anti-françaises. Et du côté de la junte qui est au pouvoir, le déclaratif que l'on entend régulièrement, c'est « il faut que vous continuez à nous aider, il faut se débarrasser de ces djihadistes, de ces terroristes ».
Je parle de la population.
Et la population, je pense qu'elle souhaite qu'on en finisse. Elle a raison. Mais d'un autre côté, j'ai senti depuis quelque temps un apaisement de ce côté-là.
Mais aussi des aspirations sociales, évidemment, d'une population qui est pauvre et qui manque de tout.
Mais il y avait une crise interne au Mali, une crise de confiance, une crise morale, presque.
Justement, sur l'action diplomatique de la France, Jean-Yves Le Drian, vous disiez que vous respectiez la souveraineté des États et le choix des Maliens. Parlons donc du Liban. Est-ce que vous respectez également, vous et le président de la République, la souveraineté du Liban? Quand on voit Emmanuel Macron se rendre sur place avec vous pour demander aux Libanais de se mettre d'accord sur un nouveau pacte politique, est-ce que vous avez le sentiment que vous n'intervenez pas dans un jeu qui n'est pas le jeu de la France ?
Chacun est dans son rôle,
Jean-Yves Le Drian,
dans cette affaire. D'abord, le président de la République s'est rendu au Liban deux jours après
l'explosion,
la catastrophe qui s'est produite. Il est le seul chef d'État s'y est rendu depuis cette date. Nous étions au rendez-vous, nous avons été au rendez-vous à l'égard d'un pays ami avec qui nous avons une longue histoire.
Mais il a critiqué le gouvernement, il a critiqué l'ensemble de la classe politique, oui, il leur a formulé des injonctions, vous y étiez.
Déjà allé avant.
Est-ce que c'est le rôle d'un chef d'État étranger de venir formuler des injonctions à un gouvernement dans un pays ?
Le problème, c'est quand un pays est au bord de la détresse et que ce pays est un pays ami, avec qui nous avons une relation particulièrement forte, des passions communes, des combats communs, des cultures communes, une francophonie commune, bref,
l'histoire,
des relations personnelles communes, des communautés libanaises en France, des communautés françaises au Liban, bref, nous sommes dans la famille, nous sommes très proches les uns des autres. Quand ce pays-là se refuse à toute réforme, alors qu'il est en train de sombrer, et quand j'étais allé la première fois au Liban avant la catastrophe à la demande du président de la République au mois de juillet, j'avais dit, nous sommes presque au bord du Titanic, sauf qu'il n'y a pas d'orchestre, les gens se parlent sans arrêt, mais il ne se passe rien. Et quand on sait que la moitié de ce pays a une population en dessous du seuil de pauvreté, oui, que la banque est proche de la faillite, qu'il n'y a plus de liquidité, qu'aucune réforme ne se fait, et que ce même pays vient nous demander de l'aide internationale. Alors nous avons réuni, sous ma présidence, en 2018, à la fin de 2018, une conférence que nous avons appelée conférence CED pour dire qui veut aider le Liban. Et on a eu 11
c'est
milliards.
C'est une conférence de donateurs. C'était pas l'intervention dans le jeu politique libanais. Jean-Yves Le Drian.
Mais à la condition que les réformes se fassent. Et on est allé dire aux Libanais, faites vos réformes. Les Libanais doivent assurer les réformes, doivent mettre en œuvre les réformes. Tout le monde sait les réformes qu'il faut faire. Et la France doit ensuite, parallèlement, aider à la reconnaissance de ces réformes par la communauté internationale. Chacun est dans son rôle. Nous sommes dans un rôle d'amis. Mais je constate aussi à cet égard que la communauté internationale a valorisé, soutenu les efforts du président Macron, que ce soit les Nations Unies ou que ce soit même le pape.
Mais on voit bien que vos objectifs sont légitimes, ils sont sans doute en accord avec les aspirations de la population. Mais comment vous obligez un système politique à se réformer, à se saborder, parce qu'au fond, ils se tiennent tous. Donc comment vous faites et comment la France peut agir sans être accusée, effectivement, d'ingérence ?
On les a mis devant leurs responsabilités. Chacun sait ce qu'il doit faire. Mais c'est les Libanais qui doivent assurer leurs responsabilités. S'ils n'assument pas leurs responsabilités, à ce moment-là, on renverra les Libanais à leur propre histoire et à leur propre situation.
On ne va pas
se substituer aux autorités libanaises.
Mais enfin, Jean-Yves Le Drian, à quelle histoire ?
Par exemple, de repasser son mandat.
On était à Beyrouth aussi pour le 100e anniversaire de la création du Liban. Curieuse convergence de l'agenda. Certains allaient même jusqu'à dire ça. Non, les Libanais, le Liban est un peuple majeur qui sait prendre ses responsabilités, qui a des ressources considérables, qui a une formation, une éducation très très forte. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est maintenant aux dirigeants libanais d'assurer.
Rapidement,
il y a un nouveau Premier ministre, Monsieur Abid, qui dit publiquement, je vais faire ça.
Est-ce que vous allez discuter
qu'il va faire un gouvernement dans 15 jours ? Ok.
Est-ce que vous allez discuter avec le Hezbollah ?
Mais le Hezbollah, il faut bien distinguer deux choses. Et il y a le Hezbollah militaire que nous condamnons, que l'Union européenne considère être une organisation terroriste. Et puis, vous avez le Hezbollah politique que les Libanais ont élu. Et donc, dans la conversation, il y a les acteurs avec leurs différentes histoires, confessions, origines.
Soutenu par l'Iran.
Et il y a aussi le Hezbollah politique, puisqu'il a été élu. On parle avec les
Ça
gens qui sont élus.
Ça veut dire le parti de Dieu, Hezbollah.
Oui.
Donc c'est un parti politique en l'occurrence.
C'est un parti politique comme il y a d'autres partis politiques.
Mais comment mettre de côté l'influence, par exemple, de l'Iran, de la Syrie, puisque vous dites que vous voulez laisser les Libanais décider de leur propre sort.
Les Libanais ont toujours dit, et c'est un point très important, ont toujours dit qu'ils étaient très attachés au principe de dissociation. Et c'est un point très important, parce que si le Liban ne fait pas les réformes, ne s'engage pas dans cette dynamique que demande d'ailleurs la population, qui a manifesté à plusieurs reprises, alors ce pays peut être l'enjeu d'affrontements, de dépeçages au niveau international et par des acteurs de la région, ce que personne ne souhaite, et les Libanais non plus, y compris d'ailleurs, au moins dans le propos et dans le discours, le Hezbollah politique.
Encore une question sur le sujet, et on va avancer beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de dossiers sur votre bureau, Karine Bekar.
Monsieur Le Drian, vous dites, c'est un pays majeur, on peut lui faire confiance, je suis moi-même confiant. Est-ce qu'on peut faire confiance à un pays qui on voit bien, l'enquête sur cette explosion n'a toujours pas avancé, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé, on n'a toujours pas les responsables en fait de cette explosion.
Honnêtement, c'est assez logique, c'est une enquête qui demande du temps, et pour être très clair,
c'était pas ce qui avait été dit au début.
Je pense que le président de la République, le président Aoun, a été un peu vite en besogne en disant dans 3 jours j'ai les résultats d'une enquête. C'est une enquête aussi importante, nécessite quand même beaucoup d'investigation. Nous avons à leur demande fait participer des experts français à cette enquête qui est en cours.
Françoise Fressoz.
Vous parlez des risques de dépeçage, mais je voudrais une question peut-être plus générale sur le rôle que s'assigne la France dans la période actuelle où on voit qu'il y a un retrait des États-Unis, on voit un Emmanuel Macron très à l'offensive, à la fois sur le Liban, sur les propos face à la Turquie. Quel rôle s'assigne la France et est-ce qu'elle s'assigne pas un rôle qui est peut-être au-dessus de ce qu'elle peut ?
Nous le faisons nous-mêmes. Et nous le faisons avec nos partenaires européens. Parce que nous estimons que dans la phase d'instabilité que connaît le monde aujourd'hui, dans ce désordre, cette perte de régulation, ces brutalités de rapport, il importe que la voix européenne se fasse entendre et que la voix européenne puisse indiquer des chemins.
On a l'impression que la voix européenne, c'est Macron tout seul.
C'est la France, c'est aussi l'Allemagne. Nous travaillons en parfaite symbiose sur tous ces sujets-là. Vous avez parlé de la Turquie, on va peut-être y revenir.
Oui, on va y revenir.
Avec
mais l'Europe est vraiment une puissance. C'est un discours, c'est une expression qui existe depuis que l'Europe a été créée.
Oui, l'Europe, je pense que l'Europe est en train de quitter la phase de naïveté. Et la phase de mauvaise prise de conscience de sa force. Elle était une espèce de puissance en retrait et elle devient une puissance qui s'affirme pour éviter que les uns et les autres soient soumis à la confrontation Est-Ouest ou à la rivalité sino-américaine.
Donc l'Europe puissance n'est pas un fantasme.
Je pense qu'elle avance. Elle avance jour après jour et les accords qui se sont passés en fin juillet sont significatifs de cette avancée. J'étais en Slovénie, vous l'avez dit, pourquoi ? Parce que c'est pas un pays compliqué, mais c'est un pays qui va assurer la présidence de l'Union européenne en 2021, juste avant nous. Et donc il faut préparer cela pour qu'on travaille de concert. Ils sont sur la même ligne. Et d'autres pays plus importants, moins importants, sont sur la même ligne. Il faut que l'Europe affirme sa puissance. C'est une condition de survie pour l'Europe si elle veut être maîtresse de son destin. Et à l'étranger, nous sommes de plus en plus reconnus et respectés.
Ah oui ?
Quand je suis allé en Irak, accompagnant le président de la République, c'est vers nous que les Irakiens se tournent pour qu'on puisse les aider à affirmer
leur souveraineté nationale. Mais nous les Français ou nous les Européens ?
Nous les Européens et nous les Français,
nous les
deux.
Enfin, ils sont pris en étau entre les Américains et l'Iran, les Irakiens. Que peut faire la France là-dedans ?
Est-ce qu'on peut leur apporter concrètement ?
L'aide à l'affirmation de leur souveraineté. Parce que c'est un enjeu essentiel, l'Irak. Parce que d'abord, nous avons une longue histoire avec l'Irak. Une histoire non conflictuelle. Et puis ensuite, parce que l'Irak, c'est Daesh. Et Daesh, certes, a perdu sa surface territoriale, mais n'a pas perdu sa capacité de résurgence dans certains territoires irakiens. Ils font donc aider l'Irak à assumer sa propre souveraineté. C'est le message que les autorités irakiennes ont fait passer au président Macron. Et notre place internationale, nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous avons une responsabilité particulière en Europe. Notre place internationale doit nous permettre de mobiliser les acteurs pour cela. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire rapidement sur l'Irak.
Françoise Fressoz.
Avec quand même un paradoxe, c'est qu'au moment où l'Europe veut affirmer sa souveraineté, on voit que par exemple les crédits militaires européens, en tout cas la convergence vers une défense européenne marque le pas. On a vu que les crédits allaient être réduits. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Est-ce que ça expose pas la France toute seule?
Non.
Jean-Yves Le Drian.
Non.
Pas du tout.
Alors, si je peux dire deux mots sur ce sujet. Parce
essayez de nous convaincre.
Je suis tout à fait disposé à le faire. J'ai souvenir, Françoise Fessos, qu'il y a 5 ans, je me suis rendu à une réunion des ministres de la Défense avec Madame Ursula von der Leyen, qui était à ce moment-là ministre de la Défense de l'Allemagne. Et tous les deux, nous sommes arrivés à la réunion des 28 à l'époque, en mettant sur la table un papier permettant d'aller vers une plus grande convergence militaire et de défense. Nous nous sommes fait jeter. Par les uns et par les autres, pas uniquement par le Royaume-Uni. Aujourd'hui, tous les pays sont d'accord là-dessus et mettent cela en œuvre. Mmh. Dans cette hypothèse-là et dans cette proposition-là, il y avait la création d'un fonds européen de défense qui a été constitué. Mmh. Il n'a pas été réduit. Il a été réduit par rapport aux hypothèses de travail. Il est constitué. Ça n'existait pas. C'est quand même 8 milliards d'euros.
Mais
ce
on
n'est
revient
pas rien
au fantasme de l'Europe puissance, Jean-Yves Le Drian. Quand on regarde la Méditerranée, quand on regarde par exemple la place qui prend la Turquie, est-ce qu'elle n'est pas en train justement de prendre le leadership dans cette zone? Quand on voit les tensions avec la Grèce, la Turquie, elle est membre de l'OTAN, elle est dans ses rangs et pourtant elle s'équipe d'armements russes. Qu'est-ce que peut proposer la France à ses alliés comme réaction, comme représailles? Et est-ce qu'on n'a pas perdu la bataille face à Erdogan?
La Turquie, nous avons avec ce pays, je dis nous avons la France, mais d'une certaine manière nous avons aussi l'Europe, avec ce pays un certain nombre d'oppositions, d'irritants majeurs. D'abord sur le respect des droits de l'homme, en Turquie. Ensuite sur le chantage aux migrations, qui est récurrent. Mais au-delà de cela, nous avons une opposition majeure avec la Turquie concernant la Libye, où finalement la Turquie, le président Erdogan, considère qu'ils peuvent revenir en Libye et qu'ils ont la charge de la sécurité libyenne, sans que personne les a chargés de cela. Avec en plus, en Libye, à 200 kilomètres de chez nous, quand je dis chez nous, parce que Lampedusa, c'est l'Europe, il y a maintenant plusieurs milliers de combattants syriens amenés en Libye par des avions turcs et qui s'affrontent à d'autres fractions libyennes sur lesquelles peut-être on reviendra, mais nous avons là un désaccord.
Oui, vous avez un désaccord, mais en l'occurrence,
c'est pas
qui
fini.
Soutenez-vous? Est-ce que vous soutenez le gouvernement qui est malgré tout élu, reconnu par l'ONU et qui est soutenu par les Turcs, ou est-ce que vous soutenez le général Haftar en Libye?
Si vous me permettez, je vais finir sur, oui, sur la Turquie, on reviendra sur la Libye parce que ça demande un peu d'explication. J'étais sur les Turcs. La Libye, il y a aussi la Méditerranée orientale. Mm-hmm. Où vous savez que dans cette zone, il y a, les frontières ont toujours eu un peu de mal à s'établir, en raison en particulier de l'émiettement insulaire important. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il y a des ressources gazières. Et que la Turquie veut mettre les uns et les autres devant les faits accomplis, et en particulier empêcher le respect du droit maritime international à l'égard de la Grèce
et à l'égard de Jean-Yves Le Drian.
Mais ça, c'est pas acceptable.
Bien,
vous allez voir.
Non, mais quelle représailles, quelle réaction, Jean-Yves Le Drian.
On serait en guerre déjà depuis longtemps.
Pas du tout.
Mais
c'est votre métier.
Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller?
Ce que nous voulons avec les Turcs, c'est établir un rapport de force suffisant pour que l'on puisse avoir une phase de négociation par la Méditerranée orientale.
Mais avec l'accent qu'on a sur la politique migratoire, est-ce qu'on peut établir ce rapport de force?
Oui, mais il ne faudrait pas qu'il y ait demain, c'est ce que nous expliquons à certains de nos amis européens, deux leviers d'action sur la politique migratoire. Celui que la Turquie a à partir de son propre territoire et celui qu'elle pourrait avoir demain à partir de la Libye. Alors là, on serait sérieusement en difficulté. Alors, c'est la raison pour laquelle, au Conseil européen de la fin de ce mois, Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, le dossier sera le dossier turc. Et nous avons préparé ce dossier turc il y a quelques jours entre ministres des affaires étrangères à Berlin pour énumérer la panoplie des représailles que nous pourrions engager à l'égard de la Turquie. Et nous disons entre maintenant et le Conseil européen à la Turquie, faites preuve de capacité de discussion, d'abord sur la question de la Méditerranée orientale.
Est-ce qu'on est infériorité, malgré tout?
On va faire circuler la parole.
Pas du tout sur ce point. Donc, le message est transmis aux Turcs. Il y a une échéance qui est à la fin du mois de septembre. On sait qu'il y a une panoplie d'actions de représailles qui peuvent être engagées. Maintenant, c'est aux Turcs de faire en sorte que cette question de Méditerranée orientale puisse faire l'objet de discussions. C'est possible. Regardez, la Grèce et l'Égypte sont mises d'accord sur leurs frontières, ce qui est maritime, ce qui n'était pas évident. Ils sont mis d'accord. Donc faisons en sorte qu'ils se mettent d'accord et à ce moment-là, on rentre dans un cercle vertueux sur l'ensemble des problèmes posés dans la relation entre la Turquie et l'Union européenne.
Juste Nathalie sur M. Erdogan, quels sont nos atouts? Il ne fait preuve d'aucune bonne volonté pour l'instant. Il continue à prospérer, à faire ce qu'il souhaite faire. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir comme marge de manœuvre et surtout comme levier pour qu'il change, sauf faut prier le ciel auquel on peut ne pas croire.
On n'est pas dans l'incantation divine, mais il y a toute une série de mesures qui peuvent être prises. Que ce soit, je laisserai cette information aux chefs d'État qui vont en parler au Conseil européen de la fin du mois de septembre, qui sont très variées.
On n'est pas démunis, c'est ça que vous voulez dire.
On n'est pas démunis du tout, et il le sait très bien. Il le sait très bien. Il a une situation économique qui n'est pas facile. Il y a une espèce il a une tentative de dépassement de la situation par la création d'un état d'esprit islamo-nationaliste, on peut dire ça comme ça, pour aller vite, qui a pour objectif de cacher la réalité de la situation économique, mais il n'est pas très tranquille de ce côté-là.
Le jeu des puissances est compliqué, il y a des puissances qui interviennent et parfois qui laissent le sentiment que nous sommes impuissants face à leurs interventions, et c'est évidemment le cas de la Russie, Françoise.
Oui, alors ce qui est frappant dans le cas turc et russe, c'est que la voix de la France n'est pas exactement la même, c'est-à-dire que vous êtes assez dur avec Erdogan, et vous semblez, en tout cas, vous vouliez une normalisation avec Vladimir Poutine. Et puis on voit que là, tout est un peu compromis. Vous-même, vous deviez aller en Russie au cours des prochains jours. Est-ce que vous allez maintenir votre visite?
Je viens de terminer mon propos à l'égard de la Turquie en souhaitant l'ouverture d'un dialogue structuré avec ce pays sur l'ensemble des sujets de contentieux que nous pouvons avoir avec eux. Mais ils sont néanmoins membres de l'Alliance. Et à l'égard de la Turquie, on a engagé un dialogue avec ce pays. Pourquoi? Parce que depuis, en particulier 2014, et l'intervention en Crimée et les risques que nous constatons en Ukraine, mais surtout l'intervention en Crimée, il y a
figure de rappel, la Russie est intervenue, a pris le contrôle de la Crimée aux dépens de l'Ukraine, il y a eu des condamnations, il y a eu des menaces qui n'ont pas dissuadé les Russes, et en l'occurrence, on a le sentiment aujourd'hui que l'affaire de la Crimée est pliée et qu'elle est même oubliée, Jean-Yves Le Drian.
Oui, mais à l'égard des Russes, on a une série d'actions menées par les Russes depuis, singulièrement depuis 2014, qui remettent en cause la sécurité en Europe, y compris notre sécurité. Et parallèlement à cela, les créneaux et les espaces de discussion se rétrécissaient. Et donc, il était dans notre intérêt, et c'est la raison pour laquelle le président Macron a pris cette initiative de renouer le dialogue. Mais le dialogue avec des Russes, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas un cadeau. C'est se voir pour parler. Et se voir pour parler, surtout des choses qui fâchent. Et nous le faisons. Mais il s'est passé un événement.
Voilà.
Qui est l'empoisonnement d'un opposant notoire, Navalny, récemment. Et là, c'est une situation grave. C'est grave d'abord parce que c'est un opposant de plus qui est empoisonné. Et c'est grave en plus parce que le produit qui est utilisé pour cet empoisonnement, le Novichok, est un produit interdit. C'est un produit militaire interdit par les organisations.
C'est grave. Est-ce qu'il faut sanctionner les deux?
Alors, maintenant, quelle est la situation? Qu'est-ce que nous disons? C'est un opposant russe qui est empoisonné sur le sol russe avec un produit militaire russe.
Ce qui veut dire, pour vous, que ça signe le crime?
Nous disons aux Russes, tout ça c'est russe, alors dites-nous. Dites-nous comment ça se fait, comment ça se passe, pourquoi. C'est dans votre pays,
les
tout ça
Allemands
c'est dans votre pays.
Les Allemands sont beaucoup plus clairs que vous.
Hein. Oh non, ils disent exactement la même chose.
Non.
Je vous suggère de lire le communiqué que j'ai fait avec mon collègue Heiko Maas avant-hier soir. On dit exactement la même chose au point près.
Mais donc, soyons clairs, il faut des sanctions ou pas? Et si oui, lesquelles?
À partir de ce moment-là, que la Russie nous donne des explications rapidement. Et en fonction des explications qu'ils vont nous donner, nous serons amenés à prendre des initiatives.
C'est-à-dire, vous n'avez pas répondu, vous y allez
parce
ou pas?
Parce que votre homologue, parle de sanctions dans le build. Jean-Yves Le Drian, il dit qu'il faudra des sanctions, qu'il faudra décider de sanctions contre les Russes, des sanctions ciblées.
Si les Russes ne répondent pas. vous devriez lire avec attention
mais
ce communiqué.
Que je viens de faire, y compris depuis le début du matin.
Quel type de sanctions? Parce que, par exemple, les sanctions économiques appliquées contre la Crimée, ça n'a rien changé.
Les Russes savent très bien le type de sanctions qu'on peut prendre. Et ils doivent aujourd'hui nous faire part de la vérité pour qu'on puisse à ce moment-là réagir en fonction.
Sous combien de temps vous devez vous exiger
quand on dit vite, il faut faire vite. C'est-à-dire il y a une semaine, quoi. Enfin, c'est maintenant. L'événement est traumatisant pour tout le monde. Il est sidérant pour tout le monde. Donc il faut que les Russes prennent les initiatives nécessaires et je souhaite qu'ils les prennent.
La France pourrait stopper sa politique de rapprochement avec la Russie avec ce qui vient de se passer?
Je ne peux pas à la fois vous dire. Nous demandons aux Russes de faire diligence sur cette affaire et en même temps vous dire, je dis aux Russes, si vous faites pas ça, je fais ça. Vérifions que le propos qui a été tenu par les autorités russes pour dire mais c'est pas grave, vérifions qu'il soit vrai. Mais à ce moment-là, il faut des preuves, il faut qu'ils nous le démontrent. En fonction de ça, nous prendrons des dispositions.
Françoise Fressoz.
Il y a un projet de gazoduc qui est en cours et qui est très bien avancé entre la Russie et l'Allemagne. Est-ce que ça pourrait être une des champ des sanctions possibles?
J'ai vu dans le débat allemand que c'était une question qui était posée.
Et que vous soutiendriez, puisque vous étiez assez hostile à ce projet.
Le président de la République, à plusieurs reprises, a fait part de son interrogation sur ce projet, pour une raison de fond, qui est l'affirmation de l'indépendance énergétique de l'Europe. Et c'est vrai que ça pose des questions. Il y a un débat en ce moment en Allemagne, qui se déroule, y compris dans l'article auquel vous faites référence, un débat sur faut-il ou non maintenir cette initiative.
Encore une question.
C'est dans la main des Russes.
C'est dans la main des Russes. Mais comment Crimée aujourd'hui la situation en Biélorussie?
La Biélorussie, c'est dans la main des Russes. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi on sert? Quelle pression peut-on exercer ou juste faire du bruit pour dire qu'on soutient la démocratie contre l'oppression?
Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la situation en Biélorussie. Parce que l'opposante majeure elle-même, Madame Tikhanovskaya, a déclaré que ce qui se passait en Biélorussie, c'était ni pour ni contre la Russie, ni pour ni contre l'Europe, c'était une question interne à la Biélorussie. Et la réalité de la situation dans ce pays, c'est que les dernières élections du 9 août dernier ont confirmé Monsieur Loukachenko dans ses fonctions et que l'ensemble de la population a considéré qu'elle avait été volée de ces élections. Et donc ils se mettent en manifestation, en alerte de l'ensemble de l'opinion publique et nous devons les soutenir, et y compris par des sanctions. Parce que nous avons décidé à la réunion des ministres des Affaires étrangères de Berlin à la fois une panoplie de sanctions potentielles sur la Turquie, potentiel, en attendant le rendez-vous de fin septembre, et sur la Biélorussie, une panoplie de sanctions potentielles aussi sur les autorités biélorusses pour atteinte au respect aux droits de l'homme et pour élections frauduleuses.
Après
et
un certain nombre.
Et donc là, dans les deux cas, nous serons amenés à trancher ces discussions dans la deuxième partie du mois de septembre.
Nathalie Saint-Cricq, puis le portrait de Jean-Yves Le Drian.
Juste, donc les Russes, vous considérez que ce n'est pas leur problème et qu'ils ne s'en mêlent pas? Ils pèsent, et dans quel sens pèsent-ils?
Je ne suis pas certain qu'au point de départ, c'était le cas. Loukachenko, pour sa défense,
le président de
Biélorussie, qui est là depuis très longtemps, et qui a été réélu à la surprise générale avec 80% des voix, donc c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Le président
Loukachenko... Surprenant ou frauduleux, ce vote?
L'opinion... surprenant et frauduleux. Bon. Quand je dis surprenant, c'est l'ampleur du score et l'ampleur des manifestations qui ont suivi, des populations qui disent non, c'est vraiment pas ça qu'on a voté. Mais la réalité sur la situation, c'est que Loukachenko dit tout ça, ça se passe à cause de l'Europe. Non, ça se passe parce qu'il y a un non-respect des droits démocratiques fondamentaux en Biélorussie.
Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info ce dimanche.
Question politique sur France Inter.
C'est comme pour le portrait de Dorian Gray, Jean-Yves Le Drian. Karine Bécard avait déjà fait votre portrait, mais il fallait le mettre à jour.
Ce qui est frappant désormais dans votre parcours, Jean-Yves Le Drian, c'est votre longévité, votre capacité à passer outre les changements de présidence et de gouvernement. Vous êtes ministre sans discontinuer depuis maintenant un petit peu plus de 8 ans, ce qui est extrêmement rare en réalité. Jack Lang à la culture s'était imposé pendant près de 10 ans, mais il avait été coupé dans son élan par la première cohabitation, ce qui est évidemment différent. Non, j'ai bien cherché, et pour retrouver le seul ministre à l'avoir été pendant pendant 10 années d'affilée, il faut accepter de remonter. De remonter à Maurice Couve de Murville. Vous qui avez été élu député pour la première fois sous Valéry Giscard d'Estaing, permettez-moi de vous glisser dans les pas de cet ancien ministre gaulliste aux affaires étrangères de 1958 donc à 1968.
Si les Anglais, comme ils le disaient, comme je le crois, en présentant leur candidature au marché commun, ont manifesté qu'ils optaient pour l'Europe, qu'ils voulaient entrer en Europe, qu'ils voulaient pratiquer avec nous une politique européenne, eh bien il est naturel qu'ils se réjouissent aussi de cette réconciliation et de cet accord entre la France et l'Allemagne que le voyage du général de Gaulle a définitivement confirmé.
Le ton est ferme, les mots semblent mesurés, pas question d'en dire trop tout en acceptant raisonnablement d'informer. C'est aussi votre style, Jean-Yves Le Drian, homme de l'ombre, réputé pour connaître parfaitement ses dossiers, mais sans jamais essayer de se mettre en avant. Ce qui est probablement préférable avec Emmanuel Macron, ce qui est sans doute une qualité indispensable quand on veut durer. Parce que la politique étrangère de la France est presque toujours décidée directement à l'Élysée. D'ailleurs, pas facile, après 3 années passées au Quai d'Orsay, d'égrener, Jean-Yves Le Drian, quelques-uns de vos propres succès. Si vous resterez celui qui a su vendre des rafales et redresser notre balance commerciale, ce qui entre nous n'est déjà pas si mal, mais c'est donc le ministre de la Défense que vous avez d'abord été, qui finalement sert encore aujourd'hui votre cote de popularité.
On ne peut pas dire n'importe quoi sur ces sujets. Il faut travailler, beaucoup travailler. Parce que très vite, les choix sont, ou les réflexions sont techniques, politiques et techniques en même temps. Donc il faut articuler les deux, sinon d'abord vous ne comprenez pas et ensuite vous n'êtes pas pris au sérieux.
Sacré parcours pour celui qui a été le maire de Lorient, 47 ans pour l'instant, d'itinéraire politique, 9 ans passés dans différents gouvernements. Certes, au Parti Socialiste, vous n'avez jamais aimé les courants, Jean-Yves Le Drian, mais de là à vous mettre au service d'un ex-sarkozyste, notre actuel Premier ministre, ça peut sembler déconcertant. Pour l'ancien Hollandais que vous avez été, c'est un drôle de retournement.
Réaction, Jean-Yves Le Drian. Vous avez l'air perplexe et plongé dans vos fiches.
Non, j'ai essayé de retrouver une note particulière, mais je voudrais vous dire, moi je ne cherche pas à battre des records. J'ai bien noté la référence à Maurice Couve de Murville. Je ne suis pas dans ce challenge-là. Il se trouve que le président Macron a souhaité que je sois à ce poste de responsabilité. J'essaye de l'assumer le mieux possible. Vous avez parlé de visibilité et de lumière. La réalité, c'est que dans la Ve République, la voix de la France à l'égard du monde, c'est celle du président de la République. Et le ministre des Affaires étrangères doit accepter, et je le fais vraiment sans aucun problème, d'être à la fois celui qui propose des actions, des initiatives au président de la République, celui qui l'accompagne lorsqu'il les met en œuvre et celui qui en fait ensuite, si je peux me permettre, le service après-vente. Et donc,
le travail de pédagogie pour expliquer.
Mais le service après-vente auprès d'autres pays, entretien des initiatives qui ont été prises, mais c'est au président de la République d'assumer la politique étrangère de la France.
On va parler de la France, justement. Deux questions rapides, puisque Maurice Couve de Murville parlait déjà de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et de l'Europe. En l'occurrence, est-ce que les négociations autour du Brexit vont redémarrer et faut-il, comme certains le souhaitent et peut-être même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mettre Michel Barnier de côté pour faire avancer les négociations qui sont au point mort, qui sont totalement bloquées? Boris Johnson dit qu'il y aura Brexit, peu importe ce que pourront proposer les équipes de Michel Barnier.
Je vous soupçonne de lire trop la presse britannique.
J'ai lu effectivement The Independent et The Guardian.
Parce que vous savez, les Britanniques ont essayé de diviser les Européens sur cette question. Et ils ont été convaincus, au moment de la préparation de l'accord de retrait, qu'ils allaient pouvoir, ici ou là, avoir des complicités auraient pu amener les Européens
non, mais
à plus de mansuétude.
C'est
ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là maintenant. Comme ils n'arrivent pas...
Pas question de mettre de côté Michel Barnier.
C'est pas un problème de personne.
Il faut
que les Britanniques s'en rendent compte. Je le dis par cette antenne. Il y a un mandat de négociation qui a été validé par les 27. un mandat de négociation sur les conditions des relations, en particulier des relations économiques, entre le Royaume-Uni et l'Europe à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Ce mandat, il n'est pas lié à la personne de monsieur Barnier, il est lié à l'engagement qu'ont pris les 27. Alors les Britanniques, aujourd'hui, ne semblent pas comprendre que si on veut aller sur le marché intérieur européen, il faut respecter les règles du marché intérieur européen. Il ne semble pas comprendre que si on veut négocier un bon accord, il ne faut pas uniquement parler
donc, rien
des
nouveau
sujets
sous le soleil.
Il ne faut pas uniquement parler des sujets qui les intéressent eux, mais il faut parler des sujets globaux de la relation future avec le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, ça ne va pas.
Non.
Ça ne va pas. Et il n'y a plus que 2 mois. Donc il y a urgence. Donc le compte à rebours est recommencé. Nous préférons un accord. Mais l'accord, il se fait sur les bases sur lesquelles nous sommes mandatés. Il y a possibilité d'agir. Mais il faut prendre l'ensemble des paquets, y compris le paquet pêche, pour aboutir à éviter le no deal.
S'il y a no deal. Jean-Yves Le Drian, d'une phrase à une question qui est très importante avant de parler de la France. Un officier français en poste sur une base de l'OTAN en Italie est soupçonné d'avoir espionné pour le compte de la Russie. Il a été écroué fin août à Paris. Où en est la situation? Est-ce que vous avez plus d'informations? Vous les avez partiellement confirmées, mais est-ce qu'on peut en savoir plus?
Non, madame la ministre des Armées a pris les initiatives qu'il convenait de prendre dans ce genre de situation.
Traduction?
Il est écroué, et donc il y aura une procédure disciplinaire lourde.
Mais vous n'en savez pas plus? Un cas d'espionnage, vous qui avez été à la tête des services de renseignement, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, qui participez au Conseil de défense restreint, vous ne savez pas si un Français a espionné pour le compte de la Russie?
Si, on l'a découvert et donc on a pris les mesures nécessaires
donc
pour l'écrouer.
Donc vous confirmez qu'il a espionné pour le compte de la Russie?
Je ne dis rien de plus, il a été écroué pour espionnage et pour trahison. Donc la ministre des Armées a pris ses responsabilités.
Nathalie Saint-Cricq.
Se déroule en ce moment le procès des victimes de Charlie Hebdo. Il y a une jeune femme dont on parle beaucoup, qui a disparu, qu'on a cru morte d'abord, puis qui a disparu, qui s'appelle Ayad Boumediene. Est-ce que vous auriez est-ce qu'on la recherche?
Oui.
Est-ce qu'on l'a localisée? Qu'est-ce qu'on en fera? Est-ce qu'on essaie de la rattraper?
D'une manière générale, dans ces cas-là, ça vaut pour Madame Boumediene, mais ça vaut aussi pour ceux qui ont porté atteinte à la vie de travailleurs humanitaires français au Niger récemment. La France n'oublie jamais rien.
Mais est-ce que la
jamais
France qui
rien.
N'oublie pas est bonne pour retrouver?
Oui, et on finit par trouver. On n'oublie jamais rien. Et on a une mémoire longue. Longue.
Mais vous savez où elle aurait pu s'enfuir?
L'émir Droukdal, qui vient d'être neutralisé, ça fait 7 ans. Parfois, c'est long. Et en particulier dans les zones de conflit.
Quand vous dites neutralisé, c'est tué.
Oui.
Jean-Yves Le Drian, vous n'avez pas réagi à une partie, la fin.
Non, mais j'ai pas le temps.
Voilà, exactement.
Et j'ai quand même envie. Et il nous reste malgré tout qu'une dizaine de minutes.
J'ai envie malgré tout de revenir sur cet aspect. Voilà, vous êtes un ancien Hollandais, vous êtes un socialiste. Disait certes, vous n'avez jamais tellement aimé les courants, mais vous mettre au service de Jean Castex, qui a été un collaborateur de Nicolas Sarkozy. Est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment d'appartenir à un gouvernement qui penche sérieusement à droite?
Jean-Yves Le Drian.
On va peut-être venir sur les affaires françaises. Moi, je suis de gauche depuis que je suis tout petit.
Oui.
Catholique. Je suis né dans une famille ouvrière qui était engagée syndicalement, donc je suis tombé dedans tout de suite. Et c'est pas à 73 ans que je vais changer mes orientations.
Vous êtes donc de gauche.
J'ai mené 14 combats politiques pour la gauche. J'ai pas été un professeur de leçons de gauche. J'étais un acteur de gauche.
Là, vous parlez de Lionel Jospin, le
professeur. J'étais un acteur de gauche. Et j'ai mené 14 combats, j'en ai gagné 13. Et donc, si vous voulez, du côté de la gauche, j'ai pas trop de leçons à recevoir. J'observe simplement plusieurs choses. D'abord que dans ce gouvernement, nous sommes plusieurs à avoir des itinéraires de gauche. Je suis pas le seul.
Enfin, vous êtes bien entouré par des hommes de droite, en l'occurrence Jean Castex, Gérald Darmanin.
Aussi sont bien entourés par Madame Pompili, par Florence Parly, par Olivier Véran, par Annick Girardin, etc. Donc chacun est bien entouré, si vous me permettez l'expression, d'une part. Et d'autre part, je considère qu'aujourd'hui, les partis qui se réclament de la gauche ne couvrent pas toute la gauche. Moi, je suis de gauche dans le gouvernement de Jean Castex et sous l'autorité du président de la République, j'assume dans la continuité. Parce que, je veux bien reprendre l'histoire, parce qu'on parle des affaires françaises. Ce qui s'est passé sous le quinquennat Hollande, C'est un point que j'ai, de désaccord que j'ai avec l'analyse de Lionel Jospin, que je respecte par ailleurs beaucoup comme un grand homme politique de la République française.
Qui vient mais, sortir un essai, l'un
oui, oui,
troublé.
C'est voilà. Sur ce non, point. Mais j'ai pas, je, n'ai monde... pas, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu les interviews. Ouais. Le quinquennat Hollande a été plombé dès le départ par la gauche de protestation. Moi, je ne suis pas de la gauche de protestation. J'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas la gauche des leçons, je suis la gauche de l'action. Et donc, je suis réformiste, social-démocrate, si vous voulez. Et je constate, d'ailleurs, pour résumer, qu'une partie de la social-démocratie a déménagé, a changé d'adresse. Et elle est dans le rassemblement que veut créer le président Emmanuel Macron. Et quand je parle du quinquennat Hollande, il a été plombé dès le départ par les frondeurs. Je dis dès le départ, parce que ça a commencé début 2013. J'ai vécu ça de très près. Jusqu'à ce que ces mêmes frondeurs de la gauche protestataire veuillent mettre le gouvernement par terre en déposant une motion de censure. Ça a été jusqu'à là. Je ne suis pas de cette gauche-là. Mais bon, ça aboutit. Alors... Mais ça aboutit au fait que il n'y avait plus d'autre solution pour le président de Hollande que de se retirer. Et ça aboutit au fait que cette gauche protestataire s'est présentée aux élections présidentielles avec le score qu'on connaît.
Revenons. Ce sont les mêmes au 6 d'aujourd'hui. Septembre 2020, ce sont les mêmes. Jean-Yves Le Drian, Françoise Fressoz.
Ce qui est très intéressant dans le livre de Jospin, c'est qu'au fond, il met la limite entre la gauche et la droite sur le libéralisme. En fait, en gros, il dit François Hollande s'est perdu dans le social-libéralisme de son ministre de l'économie actuel qui était Emmanuel Macron. Vous diriez aussi que la gauche ne peut pas être libérale, ou en tout cas qu'elle ne peut pas adhérer à certaines valeurs du libéralisme économique ?
C'est un autre point de désaccord que j'ai avec Lionel Jospin sur l'analyse de la situation, puisqu'il parle de l'anachronisme d'une situation. Et l'anachronisme de la situation, vous le dites, finalement, c'est le néolibéralisme qui l'emporte. Moi, je suis surpris de constater qu'un gouvernement... qui décide de mettre 100 milliards d'euros sur la table pour que l'État influe sur la reprise économique, que ce gouvernement fait en sorte qu'il y ait du chômage partiel rémunéré, que ce gouvernement, dans la relance, fasse en sorte que les plus démunis, face à la relance, soient les plus considérés dans l'effort de relance. Ça, pour moi, c'est... pas le libéralisme.
C'est parce qu'il y a eu le confinement.
Ça s'appelle du keynésianisme, si je reprends l'histoire de la gauche. C'est-à-dire l'intervention de l'État pour aider à la relance économique, soit sur l'offre, soit sur la demande.
Circonstance exceptionnelle. Ce n'est pas une politique libérale,
c'est une politique dans laquelle je me reconnais totalement et je pense dans laquelle les
Français. Grâce au coronavirus.
Mais on est dans une parenthèse économique.
Je ne crois pas qu'on soit dans une parenthèse économique, justement. Je pense que c'est autre chose qui est en train de se passer. Il y a eu des financements sur la crise du coronavirus, 470 milliards. Il a des financements pour la relance, mais aussi pour la transformation de l'économie française. Donc c'est autre chose, et moi je m'y retrouve tout à fait.
Alors justement, vous vous y retrouvez tout à fait. On a l'impression que Christian Estrosi s'y retrouve tout à fait. Est-ce que vous trouvez que ce soit sain, que c'est sain, qu'en gros il y ait autour d'Emmanuel Macron une espèce d'énorme mouvance centre-gauche, centre-droit, et finalement qu'il ne reste plus qu'Emmanuel Macron et le reste du monde, et le reste du monde c'est le Rassemblement National.
Je pense qu'il faut créer un système de coalition entre des histoires politiques différentes qui peuvent se rassembler ensemble sur un projet, à condition que chaque parti de la coalition ait lui-même sa propre identité. C'est d'ailleurs pourquoi je vais réanimer ce que j'avais commencé à faire avec d'autres, avec Olivier Dussopt en particulier, au mois de février. Nous avons été interrompus par le coronavirus. Nous allons relancer Territoire de progrès là.
C'est-à-dire la mouvance de gauche dans 15 jours. De la Macronie.
Parce qu'il y a beaucoup de socialistes en déshérence à ce sujet et qui veulent réaffirmer leur
beaucoup
oui beaucoup.
Vous allez voir
quand on va se réunir le 19.
On va se
constituer le 19 et ensuite faire un congrès constitutif avant Noël pour que l'ensemble de ceux qui pensent à ce social réformisme dont je veux me faire le porte-parole, qu'il y a une place pour ce social réformisme dans une coalition de forces autour du président de la République, et c'est un enjeu considérable, mais extrêmement stimulant.
On a l'impression qu'il restera une gauche protestataire. Olivier Faure considère que c'est pas vraiment utile d'avoir un candidat socialiste à la présidentielle, donc il y a les écolos. À droite, on est perdu, donc il va rester Macron, le président Macron.
C'est la suite des frondeurs. C'est ce à quoi ont amené les frondeurs, c'est-à-dire
est-ce
au fait
qu'on
aboutit à une forme de disparition du Parti Socialiste ou au fait que le Parti Socialiste soit à la remorque d'autres. Voilà, voilà les réalités de ce qui a commencé en janvier 2013.
Votre terme de coalition, elle m'intéresse. Ça veut dire qu'on arrive à la prochaine présidentielle avec chaque membre de la coalition ayant donné sa feuille de route, ou est-ce qu'on reste quand même dans un système très vertical où c'est le président élu et qui veut, sans doute sera veut être réélu, fait son propre projet.
C'est ce que je pense, moi. Je pense que
vous pensez quoi ?
La coalition. Oui. Je pense qu'il est utile d'avoir des forces qui se rassemblent avec des histoires différentes, d'une sociologie différente, des intonations différentes, des priorités différentes.
Des visions du monde et des visions de la société différentes.
Non, qu'il y ait une vision de la France globalement qui soit la même.
Vous allez vous retrouver avec un ministre qui parle d'ensauvagement, par exemple, de l'insécurité qui doivent heurter le socialisme que vous avez été depuis l'enfance.
Heureusement que la bataille politique ne se limite pas à des problèmes de vocabulaire. Parce qu'autrement, on ne s'en sortirait pas. J'aime bien que les Français adorent ça. Vous êtes ensauvagement? Non, pas ensauvagement. Je suis pour la sécurité, et parce que je pense que la sécurité fait partie d'un bien commun des Français, et que ceux qui sont victimes de l'insécurité sont généralement les plus pauvres, ce que certains ont parfois oublié.
Donc vous ne dites pas ensauvagement.
Est-ce que vous êtes d'accord, voilà, pour dire qu'il y a certains secteurs en France qui redeviennent sauvages?
Chaque ministre qui vient devant les antennes aujourd'hui me dit ensauvagement ou pas ensauvagement. Moi, j'ai raconté une fois que j'étais contre l'ensauvagement du monde. Parce que je constatais que les brutalités des formes qui aujourd'hui dominaient les rapports entre puissances ressemblaient à cela. Je pense qu'il faut dire la sécurité, c'est le bien fondamental de la République, et on ne doit y avoir aucune complaisance sur toute forme d'insécurité.
Oui, mais est-ce que la mélodie du gouvernement, là, c'est pas une petite musique de droite, quand même, puisqu'on essaie de justement...
La sécurité n'est ni à droite ni à gauche, je suis désolé.
Et
je dis à mes amis de gauche, que le premier bien qu'ont les classes populaires, c'est la sécurité.
Nathalie Saint-Cricq.
Un texte de loi contre le séparatisme, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron et Jean Castex, c'est qu'il y avait urgence. Est-ce que vous considérez effectivement que c'était absolument nécessaire, vu une sorte de délitement?
Nous y travaillons. Ce texte sortira maintenant assez rapidement, donc je ne vais pas l'effleurer ici, mais je pense qu'il importe, au moment où on affirme les valeurs de la République, d'identifier les risques que peuvent représenter le séparatisme.
Donc, par exemple, qu'il faut interdire, par exemple, aux nationalistes, aux indépendantistes corses de présenter des listes aux élections régionales, municipales, départementales?
Vous pourriez dire la même chose pour les Bretons.
Exactement.
Mais quand on dit séparatisme, c'est hors de la République.
Oui, ils veulent sortir de la République.
La démocratie est libre, mais le séparatisme fait référence à d'autres choses. Et vous aurez l'occasion de...
Non, mais dites islam politique, ce sera beaucoup plus clair.
Ce n'est pas uniquement islam politique, parce qu'il y a aussi des volontés d'agression contre les pratiquants de l'islam qui sont tout à fait condamnables.
On ne choisit jamais une part de France, disait le président de la République au Panthéon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Est-ce que vous ne choisissez pas entre Pétain et De Gaulle, par exemple?
Je vais pas répondre à ces questions de cette manière. L'histoire de la France est une.
Oui.
Et il faut respecter l'histoire de la France dans sa globalité, dans ses membres.
Donc vous refusez de choisir entre De Gaulle et Pétain,
entre Vercingétorix et Jules César, je choisis Vercingétorix. Mais écoutez, à ce jeu-là, on peut aller longtemps. Moi, je joue pas comme ça. Je pense qu'il y a une République, elle est une et indivisible. Et il faut respecter les fondamentaux.
Le pronostic pour les États-Unis, Trump, Biden, je sais très bien pour qui vous voteriez si vous étiez là-bas. Est-ce que vous avez une vague vision de ce qui risque de se passer?
Jean-Yves Le Drian.
Je ne parle pas de vos espoirs.
Non, moi je laisse ma responsabilité, la responsabilité de la France, c'est de dire aux Américains, votez dans l'intérêt de pays tel que vous le concevez. On souhaite avoir de la part de notre grand allié. Je serai très prudent. Si je veux faire l'analyse, parce qu'il y a eu un moment de montée en flèche de Biden, aujourd'hui ça semble un peu se ternir, et il y a dans les États qu'on appelle les États clés des incertitudes, donc je reste très prudent sur mon pronostic.
Ce serait une catastrophe deuxième mandat de Donald Trump.
Je ne poserai pas de diagnostic politique sur les résultats des élections américaines.
Ce serait une bonne nouvelle pour le monde que Joe Biden l'emporte.
Je ne répondrai pas à cette question.
En revanche, vous répondriez si on vous posait la question pour le Liban, par exemple, ou pour le Mali.
Non, pas du tout. Je n'ai pas répondu tout à l'heure. Pas du tout. Tout à l'heure, je vous ai dit que M. Ibeka avait été élu par les Maliens et il y avait d'autres candidats. Ils n'ont pas pris parti pour tel ou tel candidat.
L'émission se termine vraiment. Un dernier mot, Nathalie.
Est-ce que vous, Ségolène Royal, parle de la tyrannie hygiéniste avec le masque. On est tous là, on l'a enlevé, notre masque, on va le remettre en sortant.
Oui.
Vous aussi, vous trouvez pas qu'il y a le principe de précaution est excessif?
Non, je trouve que il faut, dans cette période difficile, mettre en valeur les méthodes de bon sens, parce que le risque est grand d'une reprise de la pandémie. Moi, je me promène beaucoup dans le monde, mais c'est pas uniquement en France. Donc, il faut être très vigilant. Et je crois que les trois principes, lavage de mains, distanciation, masque, sont indispensables. C'est du bon sens. C'est vrai que c'est un peu handicapant. Mais quand même, on peut faire ça pour éviter qu'il y ait un nouveau confinement.
Merci pour la piqûre de rappel. L'émission se termine. Merci Jean-Yves Le Drian. Bon dimanche, bon séjour à Paris, puisque vous êtes toujours entre deux avions. Merci à toute l'équipe de Questions Politiques, Stéphanie Boutonnat, Alexandre Gilardi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes les trois.